Monde, ici Canal Sud. Nous sommes élèves en 5e 2 au collège Berthelot qui se trouve à Saint-Michel. Nous participons au projet Patrimoine. On est là pour interviewer des anciens élèves du collège. Nous allons leur poser des questions sur l'histoire du collège et sur leur vie quotidienne à l'époque. Nous espérons que vous prendrez du plaisir en nous écoutant.
Bonjour monsieur, comment vous vous appelez-vous ?
Alors, je m'appelle Robert Mazel et j'étais bien entendu ancien élève du collège Berthelot, puisqu'à l'époque, il n'y avait que deux établissements à Toulouse qui arrivaient jusqu'au baccalauréat. Il y avait le lycée Fermat et le collège Berthelot. Mais malgré que ce soit un collège, nous allions jusqu'au baccalauréat. Alors moi, je suis rentré au collège Berthelot en 1950 et j'ai fini mes études en secondaire à Berthelot en 1958, par l'obtention du baccalauréat.
Est-ce que le collège était privé ?
Ah non, non, c'était le collège d'État. Ce n'était pas divisé comme maintenant, où les lycées dépendent du conseil régional et les collèges du conseil général. À l'époque, on était établissement d'État.
Quel était votre emploi du temps ? Avez-vous beaucoup d'heures de cours ?
Bien, nous avions des heures de cours, si je me souviens bien. On avait le lundi 4 heures le matin et 2 heures l'après-midi. C'était en général le programme de la journée. Et nous avions une après-midi de sport. Et aussi le samedi après-midi, nous étions libres. Et notre mercredi était le jeudi, à cette époque-là.
Quelles étaient les matières ?
Les matières que nous étudions sont certainement les mêmes que les vôtres. On avait français, langue vivante, mathématiques, physique, enfin ça dépend. En cinquième, on ne faisait pas de physique encore, mais on avait les langues, les français, l'histoire, la géographie, bien sûr, etc. Quoi. Ce sont les mêmes matières que vous étudiez maintenant. Vous savez, on n'a pas changé pour ça. Hein.
Est-ce que vous étiez motivé ?
Ah ben oui, on était motivé parce que, pour commencer, tous les jeunes gens, jeunes filles, n'allaient pas au collège. Il y en avait beaucoup qui faisaient des centres d'apprentissage, ce qu'on essaie de refaire maintenant d'ailleurs, ce qui sera certainement une bonne chose. Et nous n'étions pas très nombreux. Mais il faut savoir que pour entrer en sixième à cette époque-là, il y avait un examen d'entrée en sixième qui était un véritable concours car les places étaient limitées. Et il y avait des notes éliminatoires. 5 fautes à la dictée, on ne rentrait pas en sixième.
Aviez-vous des notes, des contrôles, surprises ?
Oh, bien sûr, on avait des interrogations. À chaque leçon, on avait des interrogations. Mais oral, peu souvent écrites quand même. Mais on avait des devoirs à rendre écrits.
Y avait-il des punitions ?
Oula, oui.
Lesquelles ?
Oh oui, il y avait des punitions. Oui. Il fallait se tenir, comme on dit, à carreau. Vous comprenez ce que ça veut dire, se tenir à carreau. Oui. Et oui, la discipline était très importante à l'époque. Et moi, je vous dis que moi, je n'aimais pas être puni, ni collé, surtout collé, parce qu'on avait des cols le jeudi après-midi. Parce que le jeudi après-midi, moi, je faisais du sport. Je faisais ou du vélo ou du football. Alors, ça me gênait beaucoup d'être collé. Mais je n'ai jamais réussi une année sans être collé une fois.
Y avait-il des professeurs, beaucoup de professeurs ?
Oh ben, il y avait des professeurs pour toutes les matières, bien sûr, et plusieurs même, puisque ça s'est âgé donc de la sixième à la terminale. Donc les professeurs faisaient les petites classes, enfin les petites classes, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, les petites classes, sixième, cinquième peut-être, et puis et on changeait en général, on n'avait pas les mêmes professeurs quand on changeait de classe. Quand on passait par exemple de cinquième en quatrième, eh bien, les professeurs changeaient. C'était très rare qu'on ait un professeur qu'on avait eu auparavant.
Aviez-vous une infirmière ?
Il y avait une infirmière, oui, au collège, il y avait une infirmière, oui. Mais enfin, en général, bon, c'était pour des petites choses. Mais il y avait une infirmière, oui, c'était obligatoire.
Tous les jours ou
Tous les jours, oui, il y avait une infirmière qui était au lycée à l'époque, donc à Berthelot. Quand je suis rentré à Berthelot, il y avait 700 élèves seulement.
Y avait-il un ou une CPE, vie des élèves ou au collège et en dehors des cours, des surveillants ?
Ah, bien sûr, il y avait des surveillances. Par exemple, lorsque un professeur était absent, par exemple, entre 10h et 11h, et si nous avions des cours entre 11h midi et qu'on avait des cours avant, eh bien, on allait en étude. Ce qu'on appelle en étude, et là, on avait le droit de faire une chose, c'est de travailler. On jouait bien au morpion de temps en temps, mais il fallait faire attention parce que le surveillant nous pistait. Et s'il nous attrapait, c'était la colle. 4h. Mais on arrivait à jouer au morpion quand même.
Y avait-il plus de professeurs hommes ou femmes ?
À l'époque, c'était assez mitigé, mais il y avait moins de professeurs féminins que masculins quand même. Maintenant, je crois que c'est tout à fait l'inverse.
Y avait-il un carnet de correspondance ?
Oui, on avait un carnet. C'était pas tout à fait un carnet de correspondance. On avait un cahier de texte, c'est-à-dire que où étaient marquées toutes les observations qu'il fallait, qui étaient mises là, les cours, enfin tout ça. Et si par hasard nous, pour les externes, parce qu'il y avait externes, demi-pensionnaires et pensionnaires. Hein, à l'époque. Et pour les externes en particulier, lorsque on était libéré à 11h parce que le professeur qui devait nous faire cours entre 11h et midi était absent, on nous permettait de sortir du collège à condition d'écrire sur notre cahier de texte et faire signer par les parents que nous étions sortis avant l'heure. Et c'était très contrôlé, très contrôlé.
Y avait-il des régimes ?
Des régimes, qu'appelles-tu un régime ?
Si c'est régime 1, on peut sortir, faut appeler les parents pour demander de sortir. Et si c'est régime 2, en cas d'absence de professeur, eh ben on peut sortir quand même, si mais on n'a plus de cours.
C'est ce que je viens de te dire, mais tu sais, dans les années 50-60, on n'avait pas beaucoup de téléphones à la maison. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de téléphone fixe non plus. C'était très, très difficile. Donc, le surveillant général à l'époque, ce qu'on appelle maintenant le TPE, nous réunissait toute la classe et vérifiait que nous marquions sur notre cahier de texte que nous étions sortis à telle heure, etc. Et en rentrant l'après-midi, il fallait montrer que c'était signé par les parents. Bon, oui. Évidemment, si les parents n'étaient pas là, on le faisait pour le lendemain. Mais en général, à la maison, il y avait toujours quelqu'un.
Combien de classes, combien d'élèves par classe ?
Alors, combien de classes ? Il y avait, quand je suis rentré à Berthelot, en 6e, il y avait 4 6e, me semble-t-il. Il y avait les modernes 1, modernes 2, modernes 3. Alors, ça dépendait de la langue vivante étudiée. Et puis, il y avait un classique, ce qui faisait le latin. Et puis, c'est tout. Il y avait 4 classes de 6e. Et on étudiait environ entre 25 et 30. Mais il nous est arrivé, en particulier en fin de l'année où il y avait deux baccalauréats. Un, le premier. Maintenant, c'est un peu plus court. Nous, on avait toutes les matières, hein, au premier baccalauréat. Il fallait avoir le premier pour avoir le second. Et on se retrouvait en cours de maths, 2 heures de maths, un samedi après-midi, parce qu'il y avait des problèmes de classe, où nous étions 41 en classe. Et ça se passait très bien, parce que nous respections beaucoup les professeurs. Il n'y a pas trop de chahut dans les classes. Il y en avait quand même, parce qu'on était un peu polisson aussi, quand même. Il faut pas croire.
Avez-vous une classe spécialisée pour les élèves arrivant de l'étranger et qui ne parlaient pas le français ?
Non, à cette époque-là, il y en avait quelques-uns qui étaient arrivés, mais ils étaient passés déjà en cours primaire, donc ils parlaient le français. Ils étaient obligés de parler le français et de l'écrire comme il faut, puisqu'ils étaient obligés quand même, eux-mêmes, de passer l'examen d'entrée en sixième, c'est-à-dire moins de 5 fautes à la dictée.
Avez-vous fait des études après le collège, des stages pendant le collège ?
Ah non, à l'époque, il n'y avait pas de stage pendant les collèges, ça n'existait pas à notre époque. Et j'ai fait des études supérieures par la suite. Mais il faut savoir qu'à l'époque, au niveau du baccalauréat, seulement 10% de la classe d'âge avait le baccalauréat. Et souvent, on rentrait directement dans la vie active. C'était le plein emploi aussi, mais très peu avaient le baccalauréat. En 1958, lorsque j'ai eu le baccalauréat, j'ai vu les statistiques, seuls 10% de la classe d'âge avait le baccalauréat. Et beaucoup de camarades qui sont rentrés, pouvaient rentrer instituteurs à ce moment-là. Ils passaient le CAP par la suite. Moi, je suis rentré technicien au CNRS, parce que c'est une opportunité qui s'était... Peu allaient à la faculté, très peu allaient à la faculté. Et peu d'élèves allaient à la faculté. Et quand j'étais au CNRS, mon directeur, M. Dupouille, à l'époque, j'ai travaillé à La Boule, vous savez, à Rangueil, là. Et m'a dit, « Monsieur Mazel, je voudrais que vous deveniez ingénieur, vous allez suivre les cours du soir. » Alors j'ai fait toutes mes études supérieures, bien souvent sans suivre un cours ni un TP. Voilà. Et je suis devenu ingénieur au CNRS, après la réussite de mes examens en fac.
Le collège était-il mixte ?
Ah non. Alors, le collège n'était pas mixte jusqu'en 1958-59. Moi, mes camarades me disent que les premières filles sont arrivées en 1958. Mais moi, je n'en ai aucun souvenir. Aucun souvenir. C'est-à-dire, il paraît qu'il y en a eu une ou deux, mais elles rentraient en sixième. On était grands, on ne regardait pas les élèves de sixième à l'époque. Non, en gros, les filles sont arrivées en 1959, on peut dire.
Portez-vous des uniformes ?
Eh bien, d'uniforme, non, mais si on peut appeler ça uniforme. Mais quand je suis rentré en sixième, la blouse était obligatoire. Après, par la suite, ça s'est démocratisé, on n'a plus... Mais elle était obligatoire, la blouse était obligatoire.
Y avait-il Internet à Bertolo ?
Internet. Et Quesaco, comme on dit à tous, en 1960,
ah,
même.
Un internat.
Ah, un internat, ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et oui, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, il y avait des pensionnaires, les pauvres d'ailleurs, qui étaient logés sous les toits du collège, là-haut. C'était très vétuste, hein. c'était pas comme maintenant. Hein. Vous avez des bâtiments quasi neufs maintenant, mais nous c'était très vétuste. Il y avait même le plâtre qui tombait des plafonds sur le professeur. Et donc il y avait des internes et, qui eux ont été reconnaissables parce que de la sixième à la terminale, on reconnaissait les internes parce qu'il y avait une blouse grise. C'était les seuls qui avaient une blouse grise, mais de la sixième à la terminale. Moi, je pense que j'ai abandonné, on n'a plus porté la blouse à partir de... quand j'étais en quatrième, je crois. Mais en sixième et cinquième, on avait la blouse obligatoire. Et les internes avaient une blouse grise. Et ça, on les reconnaissait de loin. Et à l'époque, les surveillants, et il y avait des surveillants, beaucoup même, repéraient très facilement le pensionnaire qui faisait une sottise ou une bêtise. Et ça tombait, paf! Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont été punis le dimanche, et ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Hein? Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et alors, rentrer chez eux, ils rentraient une fois tous les 15 jours chez eux seulement. Et alors, ce qui faisait qu'au bout de 15 jours, ils ramenaient du linge sale à la maison pour prendre du linge propre et faire le linge. Et ceux qui étaient punis ne partaient pas chez eux. Et il fallait qu'ils gardent le linge sale sur eux. C'était assez sévère, hein? C'était très sévère pour les pensionnaires. Et bien entendu, comme ils étaient tout le temps là, du matin jusqu'au soir et pendant la nuit, hein, ils étaient punis souvent. Souvent, ils étaient punis. C'est très, 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 très dur. Et puis, en 1950 aussi, disons que les provisions que l'on a maintenant n'existaient pas à l'époque, et même en 1950 il y avait encore des tickets de rationnement à la suite de la guerre, hein? Donc les pensionnaires n'étaient pas très bien nourris du tout même, et souvent ce qui se passait c'est que comme il n'y avait pas beaucoup à manger, les grands bousculaient les petits pour leur prendre leur nourriture. Il faut le faire, hein, quand même.
Est-ce qu'il y avait une bibliothèque ?
Oui, il y avait une bibliothèque. Alors, évidemment, on avait une série de livres. Et ça se passait en classe. Le professeur de français, faisait la liste, faisait le tour pour savoir ce qu'il voulait des livres. Alors, on choisissait un livre. Mais comme c'était l'un après l'autre, souvent, le livre qu'on avait choisi, il avait été déjà pris. C'était la grosse bagarre. Oui, il y avait une bibliothèque. Oui. Mais il n'y avait pas beaucoup de livres quand même, on n'avait pas tellement le choix.
Avait-il un transport ?
Ah non, non, le transport c'était nous-mêmes qui le faisions. Alors, de toute façon, à part les pensionnaires qui étaient des gens extérieurs à la ville de Toulouse, tous les autres étaient des Toulousains, et en particulier assez proches parfois de Berthelot. Moi j'habitais au pont des Demoiselles, la plupart venaient à bicyclette. On est à bicyclette, autrement ils prenaient le tramway. Il y avait le tramway, des bus, il n'y en avait pas beaucoup, ou le tramway, ou venez à pied.
Combien de temps mettiez-vous pour venir au collège ?
Je sais pas, moi, je mettais. Ça dépend d'où on venait et par quel moyen de transport on voyageait. Mais un quart d'heure, moi, en 10 minutes, un quart d'heure, j'étais au collège.
Est-ce qu'il y avait une cantine ?
Oui, il y avait une cantine pour les demi-pensionnaires et les internes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc il y avait une cantine. Mais ça aussi, c'était une source à punition, être collé le jeudi. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma maman, « Ouh, moi, je ne veux pas rester à la cantine. Je ne veux pas y rester parce que c'est trop dangereux. Je viendrai manger à la maison. Et si je suis tout seul, je me débrouillerai à manger, mais je ne veux pas y aller parce que c'est trop dangereux.
» Aviez-vous des jeunes sportifs ?
Ah oui, on faisait beaucoup de sport, oui. On avait une après-midi par semaine, ce qu'on appelait plein air. On sortait du collège et on allait sur les terrains qui sont à la cité d'Ast actuellement, sur la cité Ampalo, où il y avait des terrains de football et de rugby, où on faisait du sport. Et il y avait aussi, à l'intérieur du collège, une piste d'athlétisme où on pouvait faire... donc, on faisait des courses et de l'activité physique.
Y avait-il un lycée à côté ?
Non, il n'y avait pas de lycée à côté, étant donné qu'il n'y en avait que deux à Toulouse. Le lycée Fermat et le collège Berthelot. Alors, c'est un peu rigolo, si on peut dire. Le lycée Fermat était en pleine ville. Vous savez où il est, le lycée Fermat, hein, entre la Garonne et le Capitole. Hein, ça, c'était pour les Rupins, et Berthelot, c'était pour les prolos. On était tous donc des familles d'ouvriers, enfin des fils d'ouvriers en général.
Pourquoi la cantine était une punition ?
Non, non, la cantine n'est pas une punition, mais il y avait de multiples raisons d'être puni. Si on faisait du bruit, si on, par exemple, ils prenaient des boulettes de pain avec la fourchette, c'est paf, on l'envoyait sur le rein, par exemple. Parce qu'on était quand même passage comme des images, il ne faut pas croire. Mais on avait un grand respect des adultes, qu'ils soient les pions ou... Enfin, les surveillants, les pions et les professeurs, surtout les professeurs, non, pas de... bien que. Je ne sais pas si si c'est la mode aussi chez vous. Nous avons certains professeurs qui avaient des surnoms, bien entendu. Par exemple, un jour, on avait un professeur d'histoire et géographie qui avait fait peut-être une entorse à la cheville et il est venu avec une canne. Et alors, ça a été, on l'a appelé Jo la canne. Par exemple. Et ça y est resté, et c'est resté. Par exemple, on avait un prof d'histoire et géographie qui s'appelait Paul. Évidemment, on l'appelait Popol. Et on avait aussi en sixième une jeune femme qui nous faisait le français. Et alors, c'est devenu la miss. Et c'est resté tout ça, On en prenait même quand je suis rentré à Berthelot, il y avait déjà des professeurs qui avaient déjà un surnom. Et ça se suivait à travers les âges et les classes. Il y en avait d'autres qui étaient plus péjoratifs, mais enfin.
Est-ce qu'il y avait de l'aide aux devoirs et des aides aux élèves en difficulté ?
Non. S'il y avait des difficultés, il fallait les surmonter nous-mêmes ou avec les parents. Il n'y avait pas d'aide, à part peut-être parfois en étude ou le surveillant. On pouvait demander peut-être au surveillant une question. Mais moi, je n'allais pas souvent en étude parce que j'essayais de ne pas y aller parce que c'était une source de punition et je ne voulais pas. Autrement, où les élèves s'aidaient entre eux. Quand on ne savait pas faire un problème de maths, on avait toujours dans la classe, je me souviens, on avait un gars qui était très bon, il savait faire. Alors on allait pomper sur son devoir pour voir comment il avait fait. Autrement, non, il n'y avait pas d'aide du tout.
Y avait-il des aides financières ?
Alors, il y avait des aides financières, il y avait des bourses, ce qu'on appelait des bourses à l'époque. Donc, ça dépendait, les bourses étaient, disons, dépendantes des revenus des parents. Il fallait faire une demande et c'est l'État qui accordait des bourses. Elles n'étaient pas faramineuses, loin s'en faut.
Aviez-vous une récréation ?
Ah oui, on avait une récréation, bien sûr. Le matin, par exemple, nous avions 4 heures de cours, 8 heures. 9h, 9h, 10h, et à 10h moins 5, moins 10, récréation. C'est-à-dire, on arrêtait les cours et on allait dans la cour. Pour se détendre un peu, pour les grands, ils pouvaient fumer une cigarette, mais dans un endroit précis. Et les jeunes, comme vous, par exemple, c'était interdit complètement. Et alors, il y en avait bien qui truandaient quand même. Mais la fumée, ça se voit de loin. Donc, il y en avait beaucoup qui se faisaient punir.
Combien de temps avez-vous pour la récréation ?
On avait, je ne sais pas, une dizaine de minutes, un quart d'heure peut-être. Mais pas plus, 10 minutes, je pense. Et puis, à la récréation, ou le matin à 8 heures, toutes les classes étaient rassemblées dans la cour. À la cour, à l'époque, la cour, c'est ce qu'il y a sur le parvis qu'il y a en bas, là, maintenant. Il y avait le restaurant n'existait pas, et ça allait jusque... Et au milieu de la cour, il y avait, comme on disait à l'époque, les chiottes. Et alors, c'était à la turque, les Turcs disent à la française, et un trou, hein, et une porte, et certains allaient fumer dans les toilettes, hein, pour parler correctement. Mais ils ne s'imaginaient pas, mais c'est que la fumée, elle montait. Et les surveillants voyaient la fumée, tout le monde la voyait, la fumée. C'est assez cocasse, quoi. Alors ils se faisaient punir, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et alors les élèves à partir de la seconde, première et terminale, pouvaient fumer, mais dans l'endroit qui leur était réservé, c'était derrière le bâtiment des toilettes. Et les grands ne voulaient pas qu'on y aille là-bas.
Mais c'est quoi de jouer le jeu du morpion ?
Ah, tu sais pas ce que c'est que le jeu du morpion ?
Non.
Ah, ben tu fais des croix et des ronds. C'est-à-dire, on prend des croix, l'autre les ronds. Ah. Et il faut aligner trois...
Comme le puissance 4, mais là, c'est avec 3.
Ah, ben je sais pas comment vous l'appelez maintenant, mais...
Ah. Avez-vous un foyer pour jouer ?
Non, il n'y avait pas de foyer du tout.
Est-ce que vous faisiez des sorties ou des voyages ?
Non. Alors, on faisait des sorties... si on peut appeler ça une sortie, c'était le samedi après-midi, notre prof d'histoire géo nous a menés visiter la basilique Saint-Cernin, la basilique Saint-Étienne, un truc comme ça. Mais en groupe, là. Alors c'était bien parce que de temps en temps, quand on allait à Saint-Cernin, c'était intéressant parce qu'il y avait le lycée jeune fille à côté. On fantasmait, quoi, c'est tout.
Est-ce que le collège était propre ?
Non, c'était très vétuste à l'époque. Propre, oui, mais c'était très vétuste. C'était des vieux bâtiments qui étaient. C'était un ancien couvent construit bien avant la guerre de 14. Et pendant la guerre de 14, la grande guerre de 14, on fait le centenaire maintenant, vous devez en avoir entendu parler. Hein. Vous êtes d'ailleurs peut-être concerné même. Non. Bon, enfin, on fait le centenaire de la guerre de 14-18, de la Grande Guerre. Et le bâtiment avait été, disons, transformé en infirmerie pour les blessés de la guerre, du front de la guerre de 14. Mais c'était très vétuste parce que, une anecdote, on a été un peu espiègle quand même. On avait un prof de maths qui s'appelait Lagarde, que nous avions surnommé Butor, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, et qui était un gars assez mou, disons. Et alors, on avait un tableau sur tréteau. Hein. Alors, quand il écrivait au tableau, on avait tendance à croire qu'il s'appuyait sur la craie pour écrire au tableau. Alors, on avait monté le tableau de telle sorte qu'en s'appuyant, on pensait qu'il allait chuter le tableau. Mais malheureusement, le tableau n'a pas chuté. Et là, nous avons été très surpris parce que En haut, à l'étage supérieur, il y a eu du chahut. Les gens ont sauté sur le truc et c'est un bout du plafond qui lui est tombé dessus. Il était avec plein de plâtre sur lui-même et il a décidé, n'a plus voulu venir enseigner dans cette classe. Alors il s'appelait Lagarde, mais il y a une chose qu'il n'acceptait pas du tout, c'est que si quelqu'un lui disait Lagarde meurt mais ne se rend pas. Vous savez d'où ça vient, Lagarde meurt mais ne se rend pas. Hein. C'est à la bataille de Waterloo. Cambronne, le général qui commandait la garde impériale, a dit aux Anglais, rendez-vous. Et les historiens ont relevé, la garde meurt mais ne se rend pas. Mais en réalité, paraît-il, n'a pas dit la garde meurt mais ne se rend pas. Quand on avait une composition avec lui, par exemple, c'était assez marrant parce qu'il avait tendance à s'endormir au bureau. Même lui-même au bureau, on se levait. On allait à l'autre bout de la classe, on copiait sur celui qui avait fait, on revenait, on faisait la composition comme ça. C'est assez marrant.
Quelles étaient les vacances, quoi, comme étant ?
Alors, les vacances étaient un peu différentes de maintenant. C'est-à-dire qu'on avait des vacances un peu à la Noël, un peu à Pâques. Et les grandes vacances, c'était 3 mois. 3 mois de grandes vacances. D'ailleurs, donc, 3 mois de vacances, pourquoi ? Parce que la France était à l'époque essentiellement agricole. Les villes n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant, l'industrie n'était pas ce qu'elle était. Donc il fallait, en juillet, au moment des moissons, et en septembre, au moment de la vendange, que les élèves ne soient pas en classe. Donc on avait juillet, août et septembre. D'ailleurs, c'est une histoire pour les enseignants. 3 bonnes raisons pour rentrer dans l'enseignement. Vous connaissez ?
Jadis ?
Oui, jadis, oui. Trois bonnes raisons pour rentrer dans l'enseignement. Non. Juillet, août, septembre.
Quelles étaient les bêtises dont vous vous souvenez ?
Les
bêtises.
Les bêtises ? Oh là, malheur. On utilisait en particulier, c'était l'époque des crayons-billes, tu vois. Là. Et le crayon-bille était interdit. On écrivait avec un stylo, dès la sixième, avec un stylo. Le crayon-bille n'était pas développé comme maintenant. Mais le crayon-bille était très pratique, parce que c'est un tube, quand on enlève le debout, un tube très pratique qui peut servir de sarbacane.
Donnez-leur de bonnes idées.
Mais ils le savent, ils le savent. Ça se perpétue, ça, depuis toujours. Voilà, alors on mâche un peu de papier, là, tac, 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 dans la classe. Alors bien entendu, on se faisait prendre. Mais le jeu, c'était justement de ne pas se faire prendre. Essayer de ne pas se faire prendre. L'an dernier, j'étais aussi avec d'autres élèves que vous, puisque c'était des élèves de 5e, qui sont maintenant certainement en 4e, du moins je leur souhaite. Et on m'avait posé la question, est-ce que vous aviez un ordinateur ? Malheur, un ordinateur. Et, de notre temps, même au niveau du baccalauréat, en 1958, on ne savait même pas ce que c'était, on n'en avait jamais vu, ça n'existait pas. Et on faisait toutes les opérations avec le papier et le crayon. Division, multiplication, on était des as pour faire les additions. Les additions, ça passait comme ça. Et on interrompait à l'exercice.
Merci, monsieur Maazel. Et au revoir, nous avons beaucoup appris sur le travail au collège et la vie du collège auparavant à votre époque.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène, que je reste quoi ? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. J'en aime pas que l'on suive une autre route que tout le monde médite de moi, sauf les muets, cela va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne. Une autre route que non les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que tout le monde me montre au doigt sauf les manchots.
cutéreux. Je lance la pâte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, cela va de soi. Hey, pas besoin d'être Jérémy pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.